Bonjour à toutes et tous, bonjour à chacun, chacune. Vous écoutez Radio BLV 93.6. Bienvenue dans Dedans, Dehors, la zone de légèreté en temps de confinement, saison 2. C'est Sylvie au micro comme tous les mardis et les jeudis et vous retrouvez Karina le mercredi. Nous voilà donc repartis pour nos zones de légèreté en temps de confinement. Une croisière d'une heure cette fois-ci, de 11h à midi pour se faire du doux, pour partager des rires, des conseils, se dire qu'on est là pour se donner un peu d'amour dans ce grand chambardement. Nous avons été nombreuses et nombreux à accuser le coup de la déclaration du confinement la semaine dernière. Pourtant, on s'y attendait, quoi qu'en dise le président. Rien d'anormal à cette fameuse deuxième vague. Alors, est-ce qu'on ne voulait pas y croire ? Est-ce que le droit de travailler mais pas d'aller se promener nous ramène à l'état de hamster dans sa cage ? Je ne sais pas. Mais il va nous falloir toute la belle énergie pour continuer le fil de nos vies, pour inventer du meilleur, pour nous permettre de passer cette épreuve sans explosion, implosion ou distorsion. Alors ici, on va faire de notre mieux pour vous offrir des fenêtres de respiration avec de nouvelles chroniques gourmandes, décalées, poétiques et des rendez-vous qui se sont installés naturellement depuis la saison 1. On abandonne momentanément le morceau qui réveille pour le morceau qui fait sourire, autrement nommé la loufoquitcherie du jour. Et ce jeudi 5 novembre, eh bien je vous propose de vous éclater au Sénégal avec les Martin Circus. Attention, cheveux longs et platform boots obligatoires.
Oh!
Les Martins Circus, je m'éclate au Sénégal pour ce morceau qui fait sourire de ce mardi, de ce jeudi 5 novembre. Oui, alors déjà que c'est un peu dans tous les sens. Si en plus je vous dis qu'on est mardi alors qu'on est jeudi, ça ne va pas aller du tout. Ça sera une spéciale dédicace à Kat. Elle se reconnaîtra. Au sommaire de ce jeudi 5 novembre 2020, dans ce Dedans Dehors, saison 2. C'est jeudi Gypsy, parce qu'on va continuer à retrouver Armelle Vautreau, psychanalyste, tous les jeudis. On avait amorcé ce rendez-vous avec Armelle pendant la saison 1 du confinement et on l'a continué par la suite, dont avec ou sans sucre, et elle revient dans la saison 2 de Dedans Dehors. Je vous proposerai un coup de cœur découverte musicale autour du monde et puis une nouvelle rubrique, une nouvelle chronique avec Marie-Julie L, les recettes de placard de Marie-Julie L. On va se polécher les babines, on va se faire sautiller les papilles avec Marie-Julie et il suffira d'ouvrir notre placard et de voir un petit peu ce qu'on peut cuisiner avec. L'objectif étant de vous faire sourire, bien évidemment, de se faire du bien, et ça, on en a sacrément besoin, et puis dans la plus grande simplicité et à peu de frais, parce que c'est aussi important pour nous toutes et tous en ce moment. Et on terminera avec le morceau qui adoucit la journée, comme tous les jours, comme dans tous les rendez-vous que je vous propose. Tout de suite, et puis bien sûr de la musique sans tabou ni frontières, comme toujours aussi, parce qu'on va pas se gêner pour continuer, surtout en ce moment, et avec des découvertes, avec des choses plus anciennes, etc., etc. Enfin, en tous les cas, on va essayer de se faire une jolie balade. Tout de suite, c'est L.A. Salami, Generation Lost, et on retrouvera tout de suite après, c'est Jeudi Gypsy avec Armelle. We'll be right back. C'est jeudi, j'ai psy. Bonjour Armel.
Bonjour Sylvie.
Comment vas-tu avant toute chose ?
Bah écoute, un peu comme tout le monde.
C'est important.
Hein, c'est-à-dire moitié automnale, moitié mélancolique. Et puis on essaie de saupoudrer tout ça d'espoir. Pardon. Bah, tu vois, je dis d'histoire parce que je sais déjà de quoi nous allons parler juste derrière. Donc, le lapsus, voilà, le bon petit lapsus.
Et c'est important de se demander comment on va en ce moment. Je trouve qu'il est important vraiment de prendre soin les uns des autres. Alors, aujourd'hui, on va parler des enfants et des adolescents. Qui comme nous tous, tout le monde vit une succession de situations exceptionnelles depuis ce début d'année, et particulièrement ces dernières semaines, des situations d'une violence extrême. Et on avait envie j'avais envie qu'on aille regarder un petit peu du côté justement des enfants et des ados, parce qu'un peu de partout, on entend mille et une choses et tout et son contraire surtout aussi. Et que cette rentrée suite aux vacances de la Toussaint, elle a été quand même extrêmement particulière à bien des titres, et notamment suite à l'assassinat de Samuel Paty.
Et je voulais qu'on...
Oui, vas-y.
Oui, mais c'est vrai qu'on a échangé, toi et moi, au moment où ça s'est produit, pendant les vacances, en pensant à cette chronique de rentrée. Et c'est vrai qu'on s'est très rapidement posé la question du vécu des enfants. Moi, je me suis posé la question parce que je suis psy, mais parce que j'étais prof avant. Et quand il a été question de rendre un hommage à la rentrée, ce que je trouvais évidemment tout à fait légitime, mais qu'on a commencé à dire qu'il faudrait le faire dès la maternelle, j'avoue que mes poils de bras se sont hérissés. Et voilà, ça a été un petit peu le point de départ pour toi et moi de cette conversation aujourd'hui.
Alors, effectivement, le hommage, évocation, qu'est-ce qui était indispensable selon toi, et qu'est-ce qui ne l'était pas, qu'est-ce qu'on aurait pu... Comment toi, en tant que thérapeute, tu aurais plutôt envisagé la chose ?
Ben, je crois de toute façon qu'on ne peut pas traiter ça de la même manière si on est, par exemple, enseignant en maternelle, en élémentaire ou en collège et en lycée, évidemment. Je crois que de toute façon, il était important de le faire dans le cadre éducatif, parce que ça a été une demande de beaucoup de parents de dire « moi, je ne sais pas comment gérer ça ». Les parents eux-mêmes étaient débordés pour beaucoup par cette émotion incroyable et cette tristesse aussi incroyable, et donc c'était difficile de dépassionner le dialogue avec des enfants ou avec des adolescents. Donc c'était important pour les parents aussi de pouvoir un peu se décharger sur la communauté éducative, mais qui elle-même était dans une émotion extrêmement intense, puisque là, elle avait été en plus intimement touchée. Donc on a beaucoup de subjectivités d'adultes qui rentrent, qui sont à prendre en compte ici, et finalement, il faut avant tout faire en sorte que les enfants ne soient pas impactés par ces projections d'adultes. Et je sais que c'est difficile, vraiment, parce que je suis aussi parent, et je sais que c'est difficile, évidemment. Donc la première des choses, c'est ça, c'est peut-être de se dire, bon, c'est difficile pour moi, c'est douloureux pour moi. Peut-être on a pleuré devant son enfant ou devant son ado, peut-être on a dit des choses devant son enfant ou devant son ado, mais il faut réussir au moment où on rentre dans le dialogue avec l'enfant ou l'ado sur spécifiquement ces thématiques-là ou sur ces événements-là, ne pas projeter sur lui ses propres angoisses, ses peurs, ses inquiétudes, sa terreur aussi, et avant tout lui demander comment lui se sent, ce que lui ressent et peut-être ce que lui a compris aussi.
Ah oui, bah justement, là, tu me tends la perche. Pour arriver à avoir un discours et un échange dépassionné, c'est vraiment revenir au factuel.
Oui, tout à fait, exactement. Et le factuel, l'avantage quand on est enseignant, c'est qu'on peut s'appuyer sur des supports. Hein, je sais que ma fille qui est en seconde, par exemple, a beaucoup aimé l'approche de la prof de français. La prof a consacré une heure à cet hommage. Et pourtant, on pourrait se dire que ce n'est pas sa discipline, a priori. Mais elle a travaillé sur des textes, sur des notions, pour les amener justement à prendre de la distance et donc à revivre ou à revoir en tout cas l'événement qui venait de se produire avec Samuel Paty sous un angle un peu plus objectif. Et c'est ce qu'il faut faire finalement. On sait que l'émotionnel est là et il est même envahissant. Donc il faut essayer de restaurer du factuel dans l'émotionnel. Le factuel, c'est le meilleur moyen d'abord de se désimpliquer un peu de ce qu'on est en train d'expliquer, de ce qu'on est en train de partager entre adultes et enfants. Et c'est aussi un moyen de rassurer. Hein, en travaillant sur le factuel, on restaure la chronologie. Voilà ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et peut-être essayer de commencer à travailler sur le pourquoi ça s'est passé. Ça, c'est plus compliqué. Pour commencer à mettre du sens et surtout pour rétablir de l'objectivité et bien rappeler aux enfants et aux ados que cet événement finalement est entré dans leur vie, mais n'est pas leur vie.
Alors, d'autant plus que 15 jours de congé s'étaient passés entre l'événement et la rentrée, où on a, on a entretenu pendant ces 15 jours, de toute façon, les enfants sont perméables, hein, tous les médias en ont beaucoup parlé. Malgré tout, le confinement est venu aussi sur la fin des vacances et s'est invité dans l'actualité. Ce qui est un peu brouillé aussi d'un seul coup, ça aussi c'est assez violent. On parle, on focus sur quelque chose sur un événement qui est dramatique et qui symboliquement, a touché le plus grand nombre. Et puis d'un seul coup, c'est comme si c'était balayé par une autre actualité. Est-ce que pour les enfants, le fait du coup de rentrer, que ce soit leurs enseignants ou leurs copains, dans ces conditions particulières de confinement qui n'en est pas un, et tout de suite, dès la rentrée, de plonger dans cet hommage, est-ce qu'il n'y avait pas moyen peut-être du temps de réflexion un peu?
Oui, mais d'ailleurs, c'est un peu ce qu'ont demandé les enseignants et ça leur a été refusé. Hein. Ça, on n'est pas là pour faire de la politique, mais là aussi, de manière complètement factuelle, les enseignants avaient eux-mêmes besoin, puisqu'ils étaient en congé, et vraiment, j'en connais pléthore qui, pendant leur congé, ont échangé, fait des vidéos pour essayer de travailler sur cette rentrée si particulière, mais les enseignants avaient aussi besoin peut-être d'une matinée ou d'une journée pour vraiment débrayer, travailler entre eux de manière transdisciplinaire pour voir comment faire et gérer au mieux aussi la souffrance ou l'incompréhension ou la méconnaissance des élèves, parce que c'est très important, que chaque mot est important, que les éléments de langage devaient être cadrés, fixés, pour justement aussi dépassionner, hein, parce que ces enseignants avaient besoin peut-être, dans un premier temps, d'échanger entre eux pour dépassionner. Et on ne leur a pas autorisé ce moment d'échange. Donc ça a été fait à la marge dans des établissements, mais pour qu'ils soient béton, eux, devant les enfants, ils avaient besoin aussi d'avoir ce temps d'échange qu'ils n'ont pas eu.
D'ailleurs, on en profite pour faire un grand salut aux enseignantes et aux enseignants.
Oh oui.
Parce qu'on oublie souvent que ce sont des êtres humains avant toute chose, et que là, quand même, depuis le début de l'année, on leur en met un sacré paquet sur les épaules, et qui font, et qui tiennent, et qui assument, et ils sont toujours là auprès de nos jeunes. Et bravo, vraiment bravo, parce que
la tâche est difficile.
Oui, la tâche est difficile, et je crains que on peut craindre quand même aussi une grande casse au niveau des enseignants, comme tu dis, ne pas prendre en compte ça, c'est quand même dramatique. Tu as évoqué le fait de l'enseignement quand tu étais plus jeune, tu as enseigné en CM2 notamment, et notamment quand il y a eu l'attentat du 11 septembre.
Oui.
Donc, alors, toute proportion gardée, et il n'y a pas, enfin voilà, une vie est une vie, donc on ne fait pas de, comment dire, même si les événements sont différents, en tous les cas, ce sont des événements dramatiques et traumatisants. Comment tu as réagi, comment tu as vu les enfants réagir dans ta classe?
En plus, c'était compliqué parce que c'était dans un quartier qui n'était pas facile. Et du coup, moi, j'étais toute jeune, hein, j'avais une vingtaine d'années. C'était mon premier ou mon deuxième poste. Et on ne nous a pas du tout aidés. On nous a pas du tout. On était beaucoup de jeunes, hein, comme souvent d'ailleurs les établissements dans les quartiers difficiles. Malheureusement, on est très jeunes en général. Donc, on était plusieurs jeunes à être en première ou en deuxième année d'enseignement titulaire. Et on ne nous a pas du tout donné de billes, on ne nous a pas contactés, on ne nous a pas aidés. Et on s'est retrouvés avec des gamins. Donc, je me souviens, on était trois, notamment jeunes femmes du même âge, d'une vingtaine d'années, avec des CM2. Donc, on en a juste parlé entre nous. On s'est dit, on va commencer par leur proposer de dessiner, peut-être, parce que ça reste des enfants et que finalement, c'est le vecteur le plus simple, le plus facile pour eux. Et on a eu des surprises, parce qu'on a eu des dessins qui étaient extrêmement violents, avec du sang, des éclaboussures, des corps, parce que les images avaient tourné en boucle à la télé depuis la veille, hein, des tours, donc on voyait ces gens se jeter des tours, les gamins les ont vus aussi, nous comme adultes c'était insoutenable, imaginons ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Et puis on a eu aussi des réactions qui n'étaient pas évidentes, avec des enfants qui écrivaient « mort aux juifs » sur les dessins, par exemple. Donc ça reste des enfants, et là c'est compliqué, il faut garder de la distance, il faut se dire que ça reste des enfants, il faut dire qu'ils répètent des choses qu'ils entendent, qu'ils savent pas forcément, qu'ils maîtrisent pas, qu'évidemment un enfant a priori souhaite la mort de personne. Et donc là tu te retrouves dans cette espèce de conflit d'adultes, hein. Je vais pas projeter sur eux le fait que moi ça me révolte, je vais essayer de comprendre, je vais essayer d'entendre et je vais essayer de dépassionner et de mettre du rationnel là-dedans. Ça reste des enfants, voilà, c'est ça surtout, parce que on l'a entendu, ça, il y a eu des réactions d'enfants qui ont refusé de faire l'hommage, etc. Et tout de suite, il faut pas oublier que ça reste des enfants. Voilà, un enfant à 9, 10, 12 ans, 14 ans et même 16 ans, il ne sait pas forcément ce qu'il est en train de dire, c'est de la provocation, c'est de l'inconscience.
Mais il n'y a pas donc, nécessairement c'est pour ça conscience de la portée.
Mais bien sûr, mais bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut que nous, adultes, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, on arrive à dépassionner tout ça, à remettre du factuel. Il s'est passé ça, l'enfant a peut-être entendu ça, il n'a pas compris, il ne sait pas, il ne maîtrise pas. Et puis si jamais il sait ce qu'il dit, il faut essayer d'avoir un vrai dialogue constructif avec lui, pas être dans l'opposition ou dans la punition, parce que ce matin encore, j'entendais qu'il y avait eu des punitions sur ces enfants-là. Et là, on ne construit rien en punissant. On ne met pas de sens, en tout cas.
Bien sûr. Et la discussion, tout ce que tu viens de dire sur la discussion et de remettre du factuel, etc., c'est valable aussi pour les adultes.
Bien sûr.
Bon, là, voilà, notre sujet, ce sont les enfants, mais on peut quand même le préciser. Le deuil et la guerre, c'est une rhétorique du rituel contre rhétorique mortifère. Qu'est-ce que tu entends par là?
Ben oui, c'est-à-dire que quand on parle d'hommage, on est un petit peu entre ces deux choses-là. C'est-à-dire, il y a la rhétorique du rituel, il faut expliquer aux enfants ce que c'est qu'un hommage, pourquoi on va rendre hommage, à quoi ça sert. Ça sert à faire socle, ça sert à faire cohésion, ça sert à honorer la mémoire de quelqu'un. Il y a beaucoup de raisons de rendre hommage et il faut leur expliquer ça. Et même ça, je suis pas sûre qu'on les fait finalement, parce qu'il n'y a pas eu le temps. Il n'y a pas eu le temps de leur expliquer pourquoi il fallait rendre hommage à ce monsieur qui était mort. Voilà, pourquoi? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, vraiment, il faut s'appuyer sur les professeurs d'histoire là-dessus, qui sont vraiment hyper compétents et qui savent faire ça à merveille. Et puis, le problème, c'est que la rhétorique du rituel qu'est l'hommage, normalement, elle permet d'apaiser. Hein, elle fait partie, justement, de la mise en sens. Et le problème, c'est que derrière ça, on a toute une rhétorique mortifère qui s'est développée, avec notamment le vocabulaire de la guerre. Hein, moi, j'ai entendu parler d'enfants de la République qui seraient en quelque sorte des soldats de la République.
Oui,
je trouve ça absolument terrifiant de dire que les enfants de la République deviennent des soldats de la République. Mais comme on entend en boucle depuis plusieurs mois que nous sommes en guerre, j'ai aussi entendu que le masque était une arme contre le virus. Donc, si tu veux, toute cette rhétorique liée à la guerre, elle est mortifère parce qu'elle place les enfants dans un contexte qui ne leur appartient pas, qui n'est pas le leur, qui n'a pas à être le leur. Hein. On voit de quelle manière, nous, occidentaux, ça nous choque quand on entend parler des enfants soldats dans certains pays qui sont éloignés. Finalement, on met un peu cette étiquette-là aussi sur nos enfants. Voilà, il faut qu'ils soient des soldats de la République. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est révoltant.
Alors, ce que je retiendrai, c'est ce manque de temps aussi. Toujours ce manque de temps où on veut aller vite, on veut aller vite partout, on veut être soi-disant efficace, alors que l'efficacité, on la trouve justement dans ce temps long, dans le fait de prendre le temps à l'échelle humaine, parce que l'humain n'avance pas aussi vite que les machines et qu'il a besoin effectivement de pouvoir se poser, de pouvoir réfléchir, de pouvoir prendre le recul et que ça, c'est indispensable et c'est peut-être ce qui manque le plus actuellement.
Oui, et puis c'est pour ça aussi qu'on parle de travail de deuil. Hein. C'est Freud qui a parlé de travail de deuil. Le travail, ça prend du temps. Hein. Le travail, ça nécessite réflexion, élaboration, analyse et mise en sens. Voilà, donc évidemment, ça se fait pas dans une nuit, en 24 heures ou avec un tweet. C'est pas possible.
Merci, on arrive au bout de notre temps, de ces jeudis Gypsy. Merci Armelle d'avoir été avec nous, comme d'habitude, avec un éclairage qui, j'espère, vous permet d'avancer, vous aussi qui nous écoutez. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je te souhaite de te porter bien.
Merci beaucoup à toi aussi, Sylvie. Bonne journée.
Au revoir.
C'est jeudi, j'ai psy.
Sauvages, des animaux anciens, nous sommes des chiennes, jamais couchées, la rage aux dents cœur combattant, nous sommes des reines, jamais brisées, le poing en l'air, femme de fer, nous sommes des tornades, que tu ne peux pas éviter, une grande parade, une horde énervée, nous sommes des louves toutes canines, au drapeau rouge sur la poitrine, nous sommes des mères amères de larmes et de sueur, on prend le charme. Fleurs du Ténéré, nous sommes des chattes, fauves nouvelles, si délicates, armées, rebelles, nous sommes si fortes, même le corps frêle quand on s'emporte, des étincelles, nous sommes des avalanches, prêtes à te submerger, et quand tu nous déclenches, rien ne peut nous calmer, nous sommes les maillons d'une chaîne invincible, nous sommes des jamais contre les hommes, mais contre des idées, jamais contre les hommes, mais contre des idées, jamais contre les hommes, mais contre des idées, jamais contre les hommes. Amazon.
Melba avec Amazon sur Radio BLV 93.6 dans Dedans Dehors, la zone de légèreté en temps de confinement, saison 2. On parle, alors si elle parle, Melba nous parlait d'Amazon, je vais continuer avec des filles. Petit coup de cœur album, Ketekales, c'est quatre filles puissantes dans le vent du verbe haut et du talent. Toutes quatre déclinent leur créativité dans de multiples projets et supports, mais dans Ketekales, ça se traduit ainsi. Sombra alors, au chant, texte et composition, Camille Lopez aux percussions, Anna Toledo à la guitare, chant, texte et composition, et Nadia Lago-Saez à la basse, composition musicale et numérique. De Barcelone, du Chili et d'Argentine, elles ont créé Ketekales en 2016. Un groupe militant, et pas seulement au féminisme, mais aussi pour une autre manière de vivre et survivre dans le système, ou au système, pourrait-on dire. Sur le plan musical, là aussi, même pas peur. Fusionnant les styles de la rumba à la trap et du hip-hop à la soul, elles proposent un univers bien à elles, qui vous prend aux hanches et aux tripes dans une bataille de voix qui désingue le chant traditionnel et la musique urbaine pour mieux vous faire tomber dans leur filet. Ketekales, elles se nomment, et elles sortent leur album dont le titre annonce la couleur « Remendar el caos », autrement dit « Réparer le chaos ». Eh bien, c'est tout ce qu'on se souhaite. Je vous propose d'écouter tout de suite Manuela, extrait donc de cet album.
El amor
no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa que os gusta, no tiene sabor. Va más allá del sexo, se lleva por dentro, sufre del resto. El amor es para sabias, no para necios, es para sanos, para aquellos momentos. Oh, donde no, donde no quieres vivir. Compartir es solidaridad, traigan un platito más para el que no lo puede pagar. Es liberar o curar un animal, es caminar después de una enfermedad, hacer soñar con la música. Que me equilibraré, tu amor me curará. Hey. Abrázame más. Quiérete, quiérete, quiéreme. Hey. No temas, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme. Aguántese fuerte.
Fuerte que el silencio enturbia, sudor de frente y la mano sucia. Defiendo a las mías con dientes y uñas. Olor a bosque, después de lluvia. Retumba por dentro, hace vibrar el techo. Viaja a través del tiempo, lo que nos late bajo el pecho. Un aire nuevo se lleve lejos dolor y miedo. Y como brujas bailarle al fuego.
Quiérete, quiérete, quiéreme, hey. No temas, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme. Aguántese fuerte, hey. Frontera no tiene color. Oh, el amor, oh, no entiende de idioma, no importa que gusta, no tiene sabor.
Cada agresión, tendré una respuesta y lo hago por ellos.
No sé si es la manera.
Yo pongo una vela a todos mis santos para que se te cure lo mal.
Que te cales, El Amor. On écoutera un petit peu plus tard un autre extrait de cet album, Remendar El Caos. J'espère que vous avez vibré autant que j'ai pu le faire. Alors maintenant, eh bien, je vous propose une nouvelle chronique avec une nouvelle chroniqueuse. Ce sont les recettes de placard de Marie-Julielle et on va la retrouver tout de suite.
T'as déjà goûté une andouille ?
Non.
C'est épicé, t'aimes les épices ?
Non.
C'est pas si épicé que ça, allez, viens.
Un soupe de nos grands-mères ?
Oui, c'est-à-dire il faut quelques poireaux, quelques pommes de terre et un peu de beurre.
Bon.
Et surtout, attention, l'eau, parce que l'eau, c'est très difficile pour un potage.
À quoi servirait la technique moderne si elle ne nous évitait pas quelques fatigues ? D'abord, chez vous, eh bien, il y aura un ordinateur qui s'occupera de la cuisine.
Je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
Les recettes de placard de Marie-Julie, elle. Alors, on se marre parce qu'on a la chance de l'avoir en studio. Bonjour, Marie.
Bonjour, Sylvie.
Alors, Marie-Julie, c'est... Alors, comment vous la présenter ? C'est compliqué. C'est compliqué et très simple à la fois. Marie-Julie, elle est chef de cuisine et restauratrice. C'est elle qui nous régalait dans les petits plats, dans les grands, à l'angle de la rue Bouffier et de, je ne sais plus comment...
La rue d'Arménie.
Et la rue d'Arménie, voilà. Mais... Quand une fois qu'on a dit tout ça, elle me dit en fait, moi je suis cuisinière.
Oui, je suis une cuisinière parce que j'aime manger. Et j'aime faire à manger pour la famille, les amis, la tribu. Voilà, c'est ma passion.
Et que donc la cuisine, ben, je trouve que tu as bien résumé ce que c'est que la cuisine quand tu parles de la tribu, mais voilà, la famille, les amis. Parce que c'est le plaisir du goût, bien évidemment, mais c'est avant tout le plaisir d'être ensemble autour des plats.
Autour des plats et de se faire du bien avec ce qu'on mange. Donc on va préparer une recette aujourd'hui, c'est ça, Sylvie ?
Alors, hein, avant de parler de la recette,
Excusez-nous, vous savez, vous êtes en direct, donc on est, voilà, on fait des petites, on essaye de faire de la technique en même temps. C'est pas toujours facile. Il faut tout faire à la. C'est comme en cuisine, on fait tout à la main. Alors, avant de parler recettes, on va essayer de te connaître un petit peu plus quand même, parce que cette cuisine, cette passion de la cuisine, cette passion de cuisiner et de partager, ça vient d'où?
Ça vient du plaisir de manger, de ma gourmandise, en premier lieu, et en deuxième lieu, des produits qu'on trouve dans la région, parce qu'on a quand même un paradis de gastronomes autour de nous.
C'est vrai qu'on a beaucoup de chance.
On a beaucoup de chance. On a à boire, on a à manger, tout va bien. Donc on trouve des produits locaux super, des producteurs passionnés de leur métier qui font ça très très bien. Donc je suis toujours ravie de travailler avec leurs produits.
Toi, petite, tu cuisinais ou
Oui, j'ai toujours traîné dans la cuisine. Moi, j'ai toujours soulevé les couvercles de casseroles, goûté. J'étais goûteuse en chef. De corvée d'épluchage et de plaisir de tremper mes mains dans tous les produits que ma mère pouvait préparer. Voilà.
Donc ça vient de l'enfance. Tu as vu ta mère cuisiner.
J'ai cuisiné avec elle et voilà. Des gestes mère et grand-mère. Voilà.
Ah c'est bien, ouais, mère et grand-mère et c'est voilà.
Oui, la transmission de la cuisine, c'est souvent la grand-mère.
Ouais. C'est vrai. Alors oui, bah oui, on parle des femmes. Et oui, parce que c'est vrai que même si quand on parle des grands chefs, on parle beaucoup de gars. Il n'empêche que la cuisine, ça a toujours été plus particulièrement une affaire de femmes. Et que bah pour une fois, on le revendique sacrément quand même.
Oui.
Voilà. Nous, on est plutôt contentes de pouvoir aller effectivement soulever les couvercles des casseroles et tremper nos doigts dans les sauces. Et même si on se brûle un peu, c'est quand même pas mal. Alors, quand on a échangé sur cette chronique, je disais, moi, j'aimerais bien qu'on arrive à proposer quelque chose qui soit simple, qui soit gourmand, bien évidemment, parce qu'on est là pour parler de gourmandise. On est vraiment là pour se faire du bien. Et puis, que ça soit simple, parce qu'on est dans un temps, on le sait, les week-ends, on est cloîtrés, chacun est cloîtré chez soi, qu'on a fait les courses ou pas, d'ailleurs, parfois pas, parce qu'on n'a pas eu le temps ou autre, parce que certains et certaines aussi n'osent pas trop sortir, donc réduisent au maximum leur sortie. Et pour les plus fragiles d'entre nous, vraiment faites attention, effectivement, réduisez vos sorties. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans nos placards et comment on peut cuisiner avec ce qu'on a?
On trouve toujours une recette avec ce qu'on a dans nos placards. Toujours. Parce qu'on tourne en rond, de toute façon, en ce moment, à la maison. Alors, on va se faire plaisir dans l'assiette. On ouvre les placards, on va au fond. Et moi, j'ai trouvé des trucs au fond de mes placards. J'ai trouvé des trucs. Je vous le dis maintenant. J'ai trouvé des haricots blancs. Allez, tout le monde a ça dans son placard. Ça fait des millénaires qu'on mange des haricots blancs tout autour du monde.
Alors, c'est quoi le haricot blanc, d'ailleurs?
Le haricot blanc...
C'est ce qu'on appelle le coco?
Oui, ça peut être le coco, mais il y a plein de variétés de haricots blancs. La Maugette de Vendée, il y a des AOC également concernant les haricots blancs. C'est vraiment un légume qu'on trouve tout autour de la terre depuis la nuit des temps et qu'on mange différemment en salade, en garniture de plat, en soupe. Uh-huh. Et voilà, on la trouve soit fraîche, donc cette légumineuse. Dans les marchés, l'été, on trouve des cocos roses par ici. Voilà,
oui,
qu'on met dans la soupe au pistou, indispensable pour la soupe au pistou. Et puis après, on va trouver des haricots secs ou des haricots en boîte. Voilà. Alors, quand on n'a pas trop envie de passer du temps en cuisine, la boîte, c'est super.
Voilà. Ça, c'est bien. Moi, je suis contente d'entendre ça parce que, parce qu'effectivement, c'est long à faire cuire. C'est super de pouvoir prendre le temps, mais des fois, on n'a pas le temps.
Voilà, des fois, on n'a pas le temps. Et si on a le temps, on fait tremper des haricots secs la veille au soir, on laisse toute la nuit dans de l'eau, le lendemain on les cuira et puis on préparera notre recette avec ces haricots-là. Sinon, on prend une boîte, on l'ouvre et c'est fait.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces haricots blancs?
Alors, je vous propose de faire une soupe verte. Ça mettrait de la couleur dans nos vies tristes.
Absolument.
Et puis, vous allez voir, le haricot blanc, il va nous permettre de lier cette soupe et d'en faire une soupe presque veloutée, alors qu'on n'aura pas mis de crème du tout dedans.
En plus, c'est bon pour nous.
Voilà. Donc, c'est bien sûr des produits de saison qu'on va trouver sur les marchés autour de nous, chez des producteurs locaux, ou voilà, il reste plein de lieux de vente hein,
oui,
en local.
Oui. Ben, les producteurs locaux n'ont pas arrêté. D'ailleurs, tout ce qu'ils ont mis en place, ils l'ont au printemps pour
ce. Voilà, ce qu'ils ont planté, voilà. Il faut bien qu'on le mange maintenant. Donc, vous pouvez trouver des produits locaux. Renseignez-vous, il y en a plein autour de nous. Donc, j'ai choisi de travailler avec des poireaux. Et après, on rajoutera des haricots. Je vous donnerai un peu plus de détails, mais on va rajouter des haricots. Et en fin de cuisson, on rajoutera soit des jeunes pousses d'épinards, soit des fans de... Excusez-moi.
C'est normal, c'est la première.
C'est l'émotion. Des fans de radis. On va pouvoir récupérer un petit peu, faire une cuisine aussi anti-gaspi. Et récupérer ce qu'on a dans notre frigo, voilà.
Super.
On ne jette pas les fans de radis.
Super. Eh bien, allons-y.
Alors, donc, je vous propose de réaliser cette recette très simplement. Vous prendrez un oignon que vous émincerez. Vous épluchez également deux gousses d'ail. Et vous nettoyez longuement des poireaux. Parce que les poireaux, c'est toujours très sale. Donc, on lave. On les émince d'abord et ensuite, on les lave à grande eau. Une fois que tout ça est réalisé, vous ouvrez votre boîte de haricots blancs, bien sûr. Voilà, vous avez tous vos ingrédients. Donc, on va commencer par faire suer dans un petit peu d'huile d'olive l'ail et l'oignon, doucement. Il ne faut pas que ça colore, parce que la coloration vous amènera de l'amertume. attention. Donc, on fait suer tranquillement oignon et ail. Puis, on rajoute les poireaux qu'on aura bien essorés. On les tourne dans notre casserole. Par-dessus, on va rajouter de l'eau ou un bouillon, si vous avez un bouillon. Donc, ce liquide, c'est à vous de jauger combien vous allez en mettre. Parce que c'est ce qu'on entendait dans le jingle de présentation. Attention à l'eau en cuisine, pas trop.
C'était Paul Bocuse, hein, quand même, en plus.
En plus. Ah ben, je valide. Je valide Paul Bocuse. Donc, attention, ni trop peu, ni trop. Voilà. Mettez la main dedans et vous sentez que vos poireaux nagent les uns contre les autres.
D'accord.
Voilà, vous mettez les...
Ça, c'est bien.
Oui. Mais pas trop espacés, hein. Les uns contre les autres. Voilà. Vous mettez le feu un petit peu plus fort et faites prendre le bout. Quand le bout a pris, on compte 15 minutes de cuisson. Et pendant ce temps, on va faire autre chose. Notamment, on peut préparer nos fans. Donc, on a lavé. Si vous n'avez pas de fan de radis, vous pouvez mettre des jeunes pousses d'épinards. Moi, j'ai mis un demi bouquet de persil. C'était sympa aussi. Bon, c'est une note très verte. Une note très verte, de la vitamine. C'était sympa. Vous pouvez aussi acheter un sac de jeunes pousses dans un supermarché. C'est délicieux également. Voilà, vous faites avec ce que vous avez et surtout avec le temps que vous avez. Voilà, on arrête de dire qu'on n'a pas le temps pour cuisiner. On cherche des solutions simples et rapides et on se régale. Voilà, donc notre soupe de poireaux, pour l'instant, a cuit un petit quart d'heure. On va rajouter notre boîte de haricots blancs, qu'on aura donc bien égoutté avant. Nos fans ou nos jeunes pousses. Et on refait prendre le bout pour 5 minutes à feu moyen. Voilà. Notre soupe est finie. Donc, on va assaisonner du sel, du poivre, selon vos goûts. Vous goûtez, il faut goûter, n'hésitez pas. Et puis après, on va mixer cette soupe pour en faire un velouté. Voilà, un velouté sans crème.
Sans crème, effectivement. Super. Bon, alors, ça, c'est effectivement d'une... Alors, je suis surprise par les temps de cuisson qui sont effectivement très courts.
C'est très court. Le poireau, quand il est émincé, il cuit très rapidement. Quand le bout a pris, c'est 15 minutes.
Voilà.
Donc, on a le temps.
En gros, voilà, c'est 20 minutes de cuisson au total. Voilà. Donc, c'est 20 minutes de cuisson de préparation, finalement. Enfin, pas de,
voilà.
de
20 voilà. minutes Allez, de préparation. Allez, une demi-heure, la soupe est
Allez.
Faite.
Ouais.
Donc, on prend une girafe. Vous savez ce qu'est une girafe?
Non.
On en a tous dans nos placards, pourtant.
Mais on les appelle peut-être pas comme ça.
Non. Mais nous, en cuisine, on aime bien appeler ça une girafe, parce que c'est sympa, la girafe. Donc, en fait, ça a un long cou, c'est notre mixeur plongeant.
Super.
Voilà.
Ah ben, on va pas regarder nos mixeurs de la même manière, maintenant.
Non, c'est une girafe, c'est tellement plus sympa. Voilà, donc on mixe finement. et notre soupe est finie.
Alors, on peut la garder au frigo combien de temps ?
On la fait refroidir sur le rebord de la fenêtre, c'est ce qu'on trouve de plus frais quand même en ce moment.
Oui.
Et puis, on va la servir le premier soir et le deuxième soir.
Voilà, oui, on peut la garder deux soirs sans problème.
Oui, ça peut bien faire deux soirs. Ouais. Je pourrais vous donner les proportions sur la page Facebook.
Oui, absolument. Voilà. Alors, effectivement, de toute façon, on va mettre en ligne, ben, vous le savez, hein, sur le site de Radio BLV, toutes les émissions sont podcastables. Et on mettra, bien sûr, cette émission sera on réécoute, a priori, à partir de demain. Et on mettra, du coup, soit un lien vers ton blog, soit la recette directement. Mais en tous les cas, vous pourrez la retrouver via le site et puis via les pages Facebook. Toi, tu es sur Instagram aussi.
Oui, j'ai un blog en construction. Donc, le blog, pour l'instant, n'est pas fini. Mais pour l'occasion, on va lancer la page Instagram.
Super.
Voilà. Donc, voilà. Alors, on sert avec des copeaux de parmesan ou un peu de fromage râpé ou des graines torréfiées. Enfin, voilà, on rend notre soupe gourmande.
Quel genre de graines, par exemple ?
Alors, moi, j'aime bien les mélanges de graines de lin, de courge, un petit peu de pignon, qu'on fait sauter dans une poêle avec un petit peu d'huile et qu'on sale à la fin. D'accord. Voilà, ça fait un petit condiment à rajouter, c'est délicieux.
Alors, tu mets d'abord l'huile dans ta poêle.
Un fond d'huile.
Que tu fais chauffer.
Qu'on fait chauffer, on met les graines, on les fait sauter. Certaines éclatent, ça fait beaucoup de bruit et c'est sympa.
C'est des mini pop-corn.
Voilà, c'est un peu ça. Et après, on les met dans une assiette pour qu'elles arrêtent de cuire, parce que ça brûle assez vite, en fait.
Ouais,
voilà. Mais c'est tellement meilleur quand c'est torréfié.
Super. Et voilà. Donc, on met ça, on saupoudre, c'est joli.
C'est délicieux.
Très bien. Bah écoutez, j'espère que vous avez bien noté. Encore une fois, vous retrouverez la recette sur très rapidement, le plus rapidement possible, que ce soit sur le site ou que ce soit sur la page Facebook. Et puis, on retrouvera Marie-Julie tous les jeudis pour une nouvelle recette.
Avec plaisir. Voilà.
Merci beaucoup en tous les
cas.
C'est
moi qui te remercie, Sylvie.
T'as déjà goûté une andouille ?
Non.
C'est épicé. T'aimes les épices ?
Non.
C'est pas si épicé que ça. Allez, viens.
La soupe de l'ogromet ?
Oui, c'est-à-dire il faut quelques poireaux, quelques pommes de terre et un peu de beurre.
Bon.
Et surtout, attention, l'eau, parce que l'eau, c'est très difficile pour un potage.
À quoi servirait la technique moderne si elle ne nous évitait pas quelques fatigues ? D'abord, chez vous, eh bien, il y aura un ordinateur qui s'occupera de la cuisine.
Je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
Vino buscando un futuro mejor.
Pobrecita la Manuela, se vino víctima de un engaño. Dejó atrás en su tierra su familia, lo que más quería.
Pero qué dice, es muy salvaje.
Lleva un cuchillo a lo que pueda pasar.
Se dice que ella es grande y que asusta, que no le importa nada.
Vino, se fue, no le vi bien, pero escuché que está con Juan y con Inés. En su tierra está casa.
¿De qué trabaja? ¿Y por qué vino? Es un misterio saber.
Quiere la rumba.
quién es. Lo baila a su manera, la norma es tan estrecha que nos quedamos fuera. Vive a su estilo y lo celebra cuando puede. Marca su ritmo y no se olvida lo que duele. La rumba la acompaña en su fuerza y su disfrute. Al compás de su latido que se suma a quien le guste. Que tiene que no puede ni ver. Al que no le vale, no le es suficiente. Es que hay algo contra la sencillez. El derroche no te dice nada de saber.
Pa' mi Manuela, pa' mi Manuela. Dice que hay que puede deshacer los males. Pa' mi Manuela, como si el tiempo fuera a desaparecer. Pa' mi Manuela, pa' mi Manuela.
C'était Manuela qui est un extrait, toujours, c'était le second extrait de cet album dont je vous parlais tout à l'heure, Remendar el Caos de Ketekales. Voilà, j'espère que, bah, j'espère que ça vous donne des idées en tous les cas de cette, de, d'aller découvrir. Vous les retrouvez sur internet assez facilement. Elles ont aussi un site internet. Vous pouvez télécharger, vous pouvez acheter l'album en ligne, etc. C'est Kat Nana qui, bah, c'était mon coup de cœur. Voilà, et j'en ai de temps en temps, comme ça, vous le savez, et on va continuer. Alors, eh bien, on arrive à la fin de ce Dedans Dehors, saison 2 du jeudi 5 novembre. Un petit rappel. Donc, Dedans Dehors, c'est de 11h à midi maintenant. Du mardi au jeudi. Mardi et jeudi, vous me retrouverez. Mercredi, ce sera Karina qui s'y collera, qui a commencé hier. Et puis, on vous propose un nouveau rendez-vous de midi 15 à 13h. Ça s'appelle La Locale et c'est un rendez-vous autour de l'info locale, comme son nom l'indique, avec là aussi des pas mal d'intervenants. On passera des coups de fil un petit peu à différentes personnes pour avoir de l'info, bien sûr, pour avoir un petit peu des nouvelles des uns et des autres, et puis essayer de vous donner des conseils en matière de droit du travail, en matière de toutes les aides possibles et imaginables qui sont mises en place, etc. On parlera culture, on parlera environnement, on parlera économie. Voilà, on va essayer de vous tricoter ça le mieux possible. Et ce rendez-vous sera rediffusé à 18h, donc du mardi au jeudi. Dedans Dehors, vous retrouvez bien sûr la rediffusion à 17h. Et l'ensemble de nos émissions, vous les retrouvez sur le net Radio BLV, www.radioblv.com, comme d'habitude. On va se quitter avec le morceau qui adoucit la journée, parce qu'il n'y a pas de raison. On continue aussi cette tradition. Je vous retrouve donc d'ici un quart d'heure pour la locale, hein, d'ici un gros quart d'heure pour la locale. Et puis pour celles et ceux qui nous quitteraient, on se retrouvera mardi prochain à 11h pour le prochain Dedans Dehors. D'ici là, quoi qu'il se passe, tenez-vous chaud et portez-vous bien.
Diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Diz-me que a minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha. Diz-me ainda que nunca viste um sorriso igual ao meu, só meu. Quero ouvir tanta coisa que só podes falar baixinho. Por isso fala comigo, diz-me. coisas bonitas. Diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto da minha amor. É o caminho mais certo. Inspira-te, perde a vergonha. Diz-me que queres casar comigo e então deixa-te de coisas, perde essa mania de fingir que nada sente. Diz-me coisas bonitas. Diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto da minha amor. É o caminho mais certo.
Lua cheia, paz, riso de bebê.
Não diga a ninguém. Ai,
curti, família toda, toda. E aqui também é tua vida, tá bem?
Entra por baixo da pele. Acenda a luz no meu peito. Embala-me o coração. Encontra a minha pulsação. Diz-me a